Bonjour. Aujourd'hui, Thierry et moi, Marie-Chantal, représentons Amnesty International. Nous remercions Radio Grand Ciel de nous accueillir. Comme nous sommes peu nombreux à Dreux, nous serions heureux d'accueillir quelques personnes au sein de notre groupe afin de défendre les droits d'hommes et de femmes en grande difficulté. Maintenant, je donne la parole à Thierry.
Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'utilisation et de la vente des armes dans le monde. Les armes ne se trouvent pas uniquement sur les champs de bataille. Les trois quarts des décès causés par les armes interviennent hors conflit. En Amérique centrale, notamment, où l'on peut se procurer des armes facilement, les forces de sécurité utilisent les armes contre les opposants politiques ou les défenseurs des droits humains, afin de les réduire au silence. Rien qu'en République démocratique du Congo, RDC, plus de 5 millions de personnes sont mortes de causes indirectes liées aux conflits armés depuis 1998. Face à ces massacres, la demande d'Amnesty International, plus de contrôle. Pour le commerce des armes étant très lucratif, il paraît indispensable qu'il soit régulé par l'État et ne soit pas dans les mains des seuls secteurs privés, afin que les populations soient protégées. Certaines avancées ont déjà eu lieu après 20 ans de négociations et des pressions. L'ONG, les Nations Unies, ont adopté le traité sur le commerce des armes, TCA. Ce traité, entré en vigueur en décembre 2014, n'a pas pour but d'interdire la vente et l'utilisation des armes, mais d'imposer des règles strictes au transfert des armes d'un pays à un autre. Chaque État signataire doit veiller à ce que cet usage fait par l'acheteur ne soit pas contraire aux droits humains. S'accorder sur un minimum de règles est donc une étape cruciale et historique où les ONG et la société civile ont un rôle essentiel à jouer. Ce que demande Amnesty International, parce que le traité est un texte fondamental pour le contrôle des armes, nous nous concentrons sur ses exigences. Les États n'ont pas encore ratifié le traité et doivent le faire sans délai. En juin 2016, le traité a été signé par 130 gouvernements, dont seulement 82 l'ont ratifié. Les États signataires doivent modifier leur législation et leur réglementation nationale pour les rendre conformes aux clauses du traité. Les parlements doivent exercer un contrôle effectif sur les transferts des armes. Les gouvernements doivent donc publier des données transparentes sur leur exportation. Dans la pratique, il est intéressant de voir comment tout cela s'applique ou pas, et l'importance du militantisme pour avancer avec les outils que nous avons sous la main et que la lutte nous a fait acquérir. Nous mesurons les avancées, mais aussi le chemin qu'il nous reste à parcourir. Le point sur la vente d'armes en France, en Égypte. Depuis 2011, la France est devenue le principal fournisseur d'armes de l'Égypte, devant les États-Unis, normalement en fournissant le fameux Sherpa, permettant entre autres de filmer les manifestations et de tirer à balles réelles sur les manifestants. Le résultat, c'est que plus de 1000 manifestants ont trouvé la mort en Égypte, que le contrôle de la population est à son comble. Le gouvernement égyptien déclare à propos du Sherpa: nous possédons des véhicules de haute technologie appelés Sherpa, équipés de caméras pouvant zoomer jusqu'à 8 km à la ronde. Amnesty a documenté l'utilisation de manière non conforme aux droits humains. Elle a interpellé les autorités françaises. La réponse a été la suivante: ces exportations s'inscrivent dans le cadre légal extrêmement strict. Elles respectent à la lettre les traités et les engagements internationaux. Signé Florence Parly, ministre des Armées. On pourrait également citer les bavures de l'armée égyptienne, tuant par erreur 12 personnes, dont 8 touristes mexicains dans le désert occidental, ou un bombardement approximatif sur la ville de Darna, ville portuaire située à l'est du pays touchant des civils. Une arme n'est pas un jouet. Il y a une déontologie quant à sa vente et à son utilisation. Le minimum est de la faire respecter. Quelques exemples de non-respect sur la législation des armes. En Syrie, Amnesty a documenté l'utilisation de bombes à sous-munitions, interdite dans la région du Gotha. La Russie, en tant que partie prenante à ce conflit, a la responsabilité particulière de veiller à ce que son allié syrien cesse de commettre des crimes de guerre. Au Yémen, ce sont des armes de fabrication américaine qui sont à l'origine d'une attaque aérienne meurtrière qui a tué 6 civils, dont 3 enfants. Une nouvelle preuve que les armes vendues à la coalition saoudienne sont utilisées contre des civils. La cible militaire la plus proche de l'attaque était à environ 1 km. Malgré les nombreux éléments prouvant les graves violations du droit international et les crimes de guerre commis par la coalition Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les États-Unis et le Royaume-Uni et la France continuent d'exporter des armes et demeurent insensibles à la souffrance et au chaos que ces armes infligent à la population civile. Les États exportateurs d'armes ne peuvent pas pratiquer la politique de l'autruche en prétendant qu'ils ne connaissent pas les risques associés au transfert d'armes vers des parties de ce conflit, qui violent systématiquement le droit international.
Une nouvelle arme se révèle particulièrement inquiétante, il s'agit des robots tueurs. Ces robots tueurs ne sont plus de la science-fiction. De nombreux précurseurs de cette technologie existent déjà, notamment le drone Shadow Hawk, développé par les États-Unis. Il peut être équipé d'une lance-grenade, désignateur ou d'armes à létalité réduite. Dans le cadre du maintien de l'ordre, plusieurs arguments s'opposent à l'utilisation de ces armes nouvelles, notamment la possibilité de les équiper d'armes non létales afin de les utiliser pour le maintien de l'ordre. Certains gouvernements affirment que les robots tueurs réduiraient les risques inhérents au déploiement de policiers. Or, des émotions peuvent être des garanties face à la possibilité de tuer ou blesser des civils. Les robots pourraient facilement être programmés pour mener des attaques arbitraires. De plus, juridiquement, les machines ne sont pas soumises aux droits humains. Comment arbitrer les incidents lors du maintien de l'ordre et situer la responsabilité ? Enfin, il est très difficile de voir une machine se substituer au discernement humain. En situation de conflit armé, la distinction, la proportionnalité et la précaution sont les trois piliers du droit international humanitaire. Tout ceci clairement requiert le jugement humain. Les robots ne sont pas la capacité d'analyser les intentions qui sous-tendent des actions, ni de prendre des décisions complexes concernant la proportionnalité ou la nécessité d'une attaque. Toutes ces réticences semblent d'ores et déjà se vérifier dans la pratique, comme le montre l'enquête Drone Papers, qui récemment confirme ces réticences. Selon ces documents, sur une période de 5 mois, 90% des victimes des frappes américaines réalisées par drone n'atteignent pas les cibles désignées, ce qui souligne l'incapacité du gouvernement des États-Unis à garantir la transparence du programme des drones. Voilà pourquoi Amnesty International, un grand nombre d'experts et 2/3 de la population sont hostiles à l'utilisation de ce genre d'armes et qu'Amnesty se fait relais et soutien de cette protestation. Maintenant, nous allons parler du Centrafrique. Violence sous silence. Des photos, vidéos et images satellites analysées par Amnesty International témoignent d'une recrudescence de violence en Centrafrique. Dans la ville de Bambari, le 16 février, deux hommes photographiés devant l'entrée d'une mosquée située à l'est de cette ville du centre de la République centrafricaine examine des impacts sur sa façade. À l'intérieur, 14 cadavres sont visibles sur le sol. Pour les parties apparentes, les personnes ne portaient pas de tenue militaire. La vidéo a également permis de voir en gros plan certains de ces cadavres, dont une femme et un enfant, et décrit un document d'Amnesty International publié le 25 février qui recense plusieurs cas emblématiques de violences graves. Une recrudescence d'exactions liées aux élections fin 2020, au couvre-feu imposé à Bangui, la capitale, et aux combats en cours. Ce sont des informations primaires. Il nous faut les corroborer pour en faire des cas, indique Abdoulaye Diarra, chercheur d'Amnesty International. Mais nous voulons alerter, car ce qui se déroule en République centrafricaine est encore une fois passé sous silence, alors qu'il y a une vraie crise humanitaire et des populations civiles touchées par les combats. Ces dernières semaines, en République centrafricaine, les communiqués victorieux se succèdent pour annoncer que des villes occupées par les rebelles sont reprises par le gouvernement et ses alliés, c'est-à-dire les forces armées centrafricaines, aidées de mercenaires russes ou syriens et de soldats rwandais. Dans ce contexte de reconquête, la propagande va bon train. Selon le chercheur d'Amnesty, certains activistes craignent même de s'exprimer sur Twitter ou sur Facebook, où s'accroissent la surveillance et les menaces de requins de la toile proches du pouvoir. Des disparitions d'opposants sont signalées à Bangui. Nous recevons beaucoup d'appels. Beaucoup de cas nous sont rapportés en province et à Bangui, soit par la presse, soit par des victimes. Mais nous travaillons dans la discrétion, nous confirme par téléphone le responsable d'une association locale de défense de droits humains. À ma connaissance, personne parmi les défenseurs des droits de l'homme n'a été directement menacé, tempère-t-il. Bien sûr, c'est une situation de guerre. On ne peut pas dire que notre vie est garantie, mais nous faisons ce travail depuis la guerre civile de 2013.
Maintenant, quelques bonnes nouvelles. Les États-Unis. La Virginie renonce à la peine de mort. Cet État, qui possède le triste record d'exécutions sur le sol américain, va devenir le premier État sudiste à abolir la peine capitale. Le 22 février, les démocrates, majoritaires dans les deux chambres depuis 2019, ont voté définitivement en ce sens. Si la peine de mort reste légale aux États-Unis, elle est de moins en moins pratiquée depuis une dizaine d'années. 22 États l'ont abolie et 3, Californie, Oregon, Pennsylvanie, observent un moratoire. Algérie, Khaled Drareni, libéré. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse, le journaliste Khaled Drareni a été libéré le 19 février. Il s'agit d'une mesure de libération provisoire dans l'attente d'une décision de son pourvoi en cassation. Incarcéré depuis le 29 mars 2020, il a été soutenu par Amnesty International dans le cadre de la campagne « 10 jours pour signer » de décembre dernier. Comme lui, au moins 37 prisonniers d'opinion ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Cette avancée ne doit pas faire oublier les 31 autres prisonniers qui, selon le Comité national pour la libération des détenus, se trouvaient derrière les barreaux au 20 février.
Merci de nous avoir écoutés.